Mesdames, Messieurs, penser la littérature aujourd'hui. Jean-Pierre Salgas, c'est bien la troisième séquence. Donc, après la séquence qui avait réuni Jean-Pierre, la première avait réuni Jean-Pierre.
Oui.
La première avait réuni
Michel Chailloux et Pierre Bourdieu.
Pierre Bourdieu et Michel Chailloux, puisqu'on prend toujours le philosophe avant l'écrivain, voilà.
C'est déjà choisi.
La deuxième avait réuni donc
Philippe Lejeune et Pierre Michon.
Et cette troisième est entre Vincent Descombes et Michel Duguit.
Merci.
Et la quatrième étant
entre, il faut que je recompte,
en mois de mars,
entre Pierre-Marc de Biasi et Philippe Solers.
Voilà. Et qui donc est une série de six séances sur ce thème, penser la littérature aujourd'hui.
Il y a aussi une cinquième et une sixième. Hein. Pierre-Marc de Biasi et Philippe Solers. Ensuite, il y aura
Gérard Genette et Renaud Camus.
Gérard Genette et Renaud Camus, ça sera la dernière. Et je suis troublé par la question de l'ordre que Glaise m'a imposé. Jean-Marie Glaise et Jacques Roubaud.
Voilà. Très bien. Entendu.
Donc, si vous voulez la série, et là, maintenant, Jean-Pierre, à toi de
okay.
partisans.
Ça ne sera pas la guerre de partisans. Je vais, avant de présenter les partisans, rappeler un certain nombre de choses. Tout d'abord, vous rappeler que le principe de ce débat est double. D'une certaine façon, il s'agit de faire le point, autant que faire se peut et sans exhaustivité, sur un certain nombre de mutations, probablement, dans la pensée de la littérature aujourd'hui, comme le titre l'indique, c'est-à-dire faire le point sur l'état du conflit, je dirais, que peuvent symboliser les noms de Sainte-Beuve et celui du contre-Sainte-Beuve de Proust. C'est probablement, d'ailleurs, un sujet que Vincent Descombes connaît bien. Et il s'agit de mettre toujours donc face à face quelqu'un dont le métier serait plutôt la théorie de la littérature, et quelqu'un dont le métier serait plutôt d'écrire de la littérature. Alors, littérature et philosophie mêlées, il s'agit au départ, comme vous le savez, d'un titre célèbre de Victor Hugo, que, au fond, je reprends à Victor Hugo, mais je reprends aussi, d'ailleurs, finalement, à Pierre Macheret, qui l'a utilisé dans un livre récent qui s'appelle « À quoi pense la littérature ?». Il est tout à fait évident qu'entre littérature et philosophie, c'est mêlée qui compte, et d'une certaine façon, tout ce qui va se dire ici va tourner autour de cette question du mélange et plus précisément, je dirais, autour des définitions que l'on peut donner de ce qui est en cause dans ce mélange, c'est-à-dire ce que tout le monde s'accorde à appeler d'un terme au total peut-être un peu confus, justement, la pensée. Le problème sera de savoir à quoi pense la littérature, comment pense la littérature, sera de savoir si elle pense, étant entendu que la philosophie, ça va de soi qu'elle pense. Il sera aussi question de savoir ce qu'écrit la philosophie, si l'écriture peut être différente de la pensée, ce qu'elle lit, etc. etc. Enfin, disons que on essaiera d'évoquer ou de débattre d'une série de questions dans cet entre-deux, et cet entre-deux, je crois, le mot de pensée le définit assez bien. Je ne ferai pas, par ailleurs, la généalogie globale du problème littérature et philosophie. Je ne remonterai pas, mais il est sûr qu'il faut avoir ça en tête, je ne remonterai pas à Platon et à l'exclusion des poètes célèbres chez Platon. Je ne remonterai pas, de façon générale, à toute l'histoire classique de la philosophie de Platon à Hegel. Je ne remonterai même pas, en un certain sens, ce qui aurait été possible à Sartre, ni au couple Kojève-Queneau, mais là aussi je pense que c'est des figures et des figures du mélange justement que nous pouvons avoir en tête à l'ouverture de ce débat, sans compter bien sûr des interlocuteurs qui feront peut-être plus facilement leur apparition comme Heidegger ou Wittgenstein. Je voudrais simplement, à titre d'introduction, insister sur le fait que probablement ces dernières années, on a vu dans le champ intellectuel français, dans ce qui s'est écrit et publié en France, probablement toute une série de positions possibles sur cette question littérature et philosophie mêlées. Au point même, je crois, qu'on pourrait s'amuser à faire une combinatoire de ces positions. Alors, je ne ferai pas une combinatoire globale, parce qu'il est tout à fait possible que, suivant la définition qu'on va donner tel ou tel terme en cause, on pourrait rajouter des cases à ce tableau. Enfin, je rapporterai au moins, j'insisterai au moins sur quatre positions possibles du problème, que nous les ayons en tête, et qui sont assez récentes dans la littérature et la philosophie française. Je dirais du côté de la littérature, un certain nombre d'auteurs, enfin, ces quatre propositions peuvent s'indiquer finalement par quatre noms, et là aussi, on peut doubler ces noms, tripler ces noms, qui pourraient être Kundera, Borges, Deleuze et Derrida. La position de Kundera, qui est peut-être, à mon avis, en poésie d'ailleurs, et d'une toute autre façon, celle de Michel Deguy, consisterait probablement à penser que la littérature, chez Kundera il s'agit du roman, chez Michel Deguy il s'agit de la poésie, pense dans la mesure où elle inclut finalement à l'intérieur de sa polyphonie propre, elle inclut la philosophie, chez Kundera disons elle inclut l'essai, chez Michel Deguy elle inclut probablement la philosophie. Donc d'une certaine façon la littérature a pour fonction d'absorber à l'intérieur d'un ensemble global la philosophie. D'autres auteurs, c'est là que je penserai plutôt au nom de Borges et à toute une série d'écrivains que l'on pourrait ranger sous son emblème dans la littérature française, d'autres auteurs pensent que la littérature pense non pas là où elle inclurait l'essai, par exemple, dans une polyphonie, mais qu'elle pense à travers les personnages, qu'elle pense à travers les mots de la langue, qu'elle pense à travers la fiction. Et c'est probablement l'idée qui est la plus, je dirais d'ailleurs, la plus couramment partagée dans la littérature française contemporaine. Et c'est probablement d'une certaine façon, sous d'autres figures, une façon de reprendre la traditionnelle idée sartrienne exprimée dans Situation 1, comme quoi la technique d'un romancier, c'est sa métaphysique, et c'est là que se trouve la pensée, et certainement pas, évidemment, dans ses idées ou dans l'inclusion d'un certain nombre d'idées qui seraient les siennes ou pas les siennes, à l'intérieur d'un ensemble global, comme le pense par exemple de toute évidence Kundera. D'un autre côté, je crois du côté de la philosophie, il y a probablement deux grandes positions massives. La première qui consiste pour les philosophes à lire les écrivains, qu'il s'agisse de poètes ou qu'il s'agisse de romanciers, parce qu'ils sont écrivains, pour leur différence, pour ce qu'ils disent comme écrivains et non pas pour ce qu'ils disent comme philosophes. Le paradigme de cette position étant évidemment probablement la position de Heidegger par rapport à Hölderlin, bien sûr. Je repensais à mes quatre noms, enfin aucun nom ne viendrait là immédiatement. C'est peut-être, mais sous réserve à mon avis, la position de Vincent Descombes, mais c'est une question que je lui poserai. Il y a par contre des philosophes qui, de toute évidence, lisent les textes littéraires comme s'ils étaient des textes de philosophie. Pensez à Michel Foucault avec Roussel, pensez à tous les grands livres de Gilles Deleuze. Enfin, il utilise toujours le texte littéraire à égalité avec le texte philosophique, comme si, au fond, c'était pareil de parler de Lewis Carroll et des stoïciens, ou pareil de parler de Proust ou de Leibniz. Vous avez ces deux positions-là, et puis je dirais, de façon un peu parallèle à ces positions, probablement une position limite qui est celle d'un philosophe comme Derrida, qui consiste à assumer jusqu'au bout l'idée que non seulement la philosophie doit lire la littérature pour elle-même, mais doit presque à son contact se faire littérature, et que la philosophie, au fond, n'est que littérature. Enfin, et je vois que je suis au-delà de mes quatre possibles, vous avez le dernier Deleuze qui va de plus en plus vers l'idée que vers une pensée de la philosophie d'une autre façon en termes de littérature, puisque dans Qu'est-ce que la philosophie, par exemple, quand il parle de la philosophie, on enlèverait philosophie, on pourrait croire qu'il parle de littérature ou d'art, et en particulier il parle des personnages conceptuels, exactement comme on parlerait des personnages de romans. Voilà probablement, disons, pour situer un peu le fond de ce qui pourrait être le débat de ce soir. Avant de laisser la parole à Michel Deguy, je voudrais non pas présenter Michel Deguy et Vincent Descombes, puisqu'il y faudrait très très longtemps, une soirée plus longue que celle-ci, bien sûr, mais juste rappeler en quoi ils sont concernés l'un et l'autre par cette question du mélange. Michel Deguy, parce qu'il est, mais c'est une affirmation qu'il contestera peut-être, principalement poète, mais poète avec ce... Poète, ça s'écrirait comme celui, comme la revue Poésie, c'est-à-dire qu'il y aurait ce signe à la place du « e » qui est le signe qui signifie le « e » sur le clavier de la machine à écrire. C'est-à-dire que pour Michel Deguy, la poésie, c'est évidemment toujours autre chose que la poésie. J'ai relevé dans l'un de ses livres cet après-midi une formule qui, je crois, définit assez bien la conception qu'il peut se faire de la poésie. Il dit « il faut toujours faire deux choses à la fois, au moins ». Poète, il fait toujours de la philosophie à la fois, en même temps, au moins. Concernant Vincent Descombes, je rappellerai juste parmi d'autres titres son livre sur Proust sous-titré « Philosophie du roman » où il tente justement, examinant le cas de Proust, examinant la façon dont Proust, romancier, pense au-delà de Proust, philosophe, se donnant comme objectif de faire un livre sur la recherche de la vérité. Il définit une philosophie du roman et il dit d'une formule que je lui épinglerai au départ de ce débat. Il dit d'ailleurs à l'ouverture de ce livre, il est tout à fait regrettable que les philosophes ne lisent pas plus souvent des romans. Et incontestablement, Vincent Descombes en lit, pas seulement Proust, mais Balzac, par exemple, qui occupe une place très importante dans son œuvre, d'une façon qu'il nous expliquera probablement. Dernière chose que je voudrais dire, pour situer le dialogue, ou la difficulté d'ailleurs du dialogue, c'est que probablement... dans ce face-à-face entre Michel Deguy et Vincent Descombes. Vous l'avez déjà compris, quand on dit littérature et philosophie, ça n'est pas au même sens qu'on va parler littérature des deux côtés, peut-être, c'est-à-dire que Michel Deguy est évidemment du côté de la poésie, et quand il parle littérature, je crois qu'il faudra toujours entendre plutôt poésie, enfin, donc c'est un problème qu'il faudra poser. Vincent Descombes, de toute évidence, pense probablement plutôt spontanément roman. D'autre part, une autre division s'introduit tout de suite entre la philosophie qui, chez Michel Deguy, est plutôt ce que Vincent Descombes appellerait peut-être la philosophie continentale, c'est-à-dire essentiellement la référence à Heidegger. Et à l'inverse, Vincent Descombes est probablement plus près de Wittgenstein, que je citais tout à l'heure, et de façon générale de la philosophie dite anglo-saxonne. Donc en un certain sens aussi, le débat littérature et philosophie devient tout de suite un débat à quatre termes, peut-être, ou peut-être pas, d'emblée. Ceci pour situer l'échange qui va désormais commencer. Et je laisse tout de suite la parole à Michel Deguy.
Bon, je la prends. C'était prévu. Donc, j'ai préparé des choses, évidemment. Et sur un ton tantôt de lecture et tantôt d'échange, je vais prendre mon temps. Donc, il ne suffit pas d'être sincère, ni même authentique, pour être intéressant. Pourtant, je commencerai sur le ton de l'authenticité, c'est-à-dire sur le ton autobiographique. Et avant même d'aborder la question, philosophie, littérature, emmêlée, embrouillée, donc sur un ton en première personne, comme on disait naguère il y a une trentaine d'années, ici maintenant, au point zéro de cette petite introduction, dans le vestiaire où on se déshabille, ou préambulant dans le vestibule, je ferai deux ou trois observations autoscopiques, voire autopsiques, sur le ton de ces apartés qui sont faits pour prévenir dans tous les sens. Donc je vois la soirée, Jean-Pierre Salgas vient aussi de le suggérer, plus comme un duo en grande partie improvisé que comme un duel ou même comme un débat, même s'il a employé le face-à-face télévisuel ou théâtral. Et donc plutôt, je disais, comme un duo improvisé et par crainte du débat. Puis vous avez cité Deleuze, je me rappelle, dans son dernier livre, ou plutôt le livre Deleuze-Guattari, il y a des affirmations du genre « il n'y a pas de débat, inutile de débattre, le débat n'a pas lieu ». soit que nous ayons perdu la tradition de la disputatio philosophique publique, soit que je n'y sois de toute façon guère apte. Mais d'où cette préparation de notes que maintenant je livre. Et puis aussi, je dirais, soit que notre compagnonnage à la revue Critique, ou parfois à Johns Hopkins, nous est plus habitué, Vincent Descombes et moi, à la coopération qu'à l'adversarité, comment dire. Et tout bonnement aussi parce que le différent, au sens de Jean-François Lyotard, que Vincent Descombes évoque souvent, le différent avec Vincent Descombes, s'il y en a un, n'est pas aisé à articuler. Je. Avec les excuses donc liminaires, une fois pour toutes, pour ce coefficient « je », un « je » d'attestation et non de maîtrise, pour prendre une formule de Paul Ricoeur, certes, mais qui, en affectant les propositions, les fonds soupçonnés de partialité et de suffisance, je donc suis en position de mêler ce que je puis penser de littérature et philosophie mêlée avec ce que je peux adresser à Vincent Descombes en fait de questions, de demandes d'éclaircissement, d'objections, etc. Ces deux objectifs donc, dire quelque chose, de quelque chose à quelqu'un, pour quelques-uns ou devant quelques-uns, en tentant d'éclairer, voire d'éclaircir un, disons, peut-être des malentendus ou mésententes, je vais les exposer en trois points. Outre ce point zéro, une esquisse de confession, si vous voulez, une amorce dialogique, une ébauche de conclusion axiomatique. Alors, l'autoportrait de l'artiste en monstre ou chimère philosophico-poétique s'efforce de garder le sens des proportions, sans doute, et de se méfier de cette grandiloquence que Vincent dénonce avec Clément Rosset à la fin de Philosophie par gros temps, qui sera la moitié de ma bibliothèque de référence ce soir. Non sans remarquer à propos de grandiloquence, pourtant que grandiloquence est une manière de traduire le mégalo-agoréen que Longin ou Pseudo donne pour ambition à l'orateur, c'est-à-dire au littérateur. À la fois, disons, pour relier avec ce jeu, avisé de la vigilance hypercritique d'un auditoire qui nous attend et de la redoutable subtilité de Vincent Descombes, dont j'aurais dû commencer par faire l'éloge, car je ne doute pas que si Descombes sélectionne en telle page ou telle phrase signée Michel de Guy, la soumettait à son acribie, aucune, peut-être, ne résisterait plus que celle de main vraie ou grand philosophe qu'il examine et verserait plus ou moins doucement dans le non-sens, car rien ou peu de choses peut résister à cette dialyse. Donc, je me sens plus philosophique par formation que philosophe par profession, comme je le déclarais en étant élu à la présidence de l'Assemblée du Collège de philosophie, mes livres ne sont pas de philosophie. Alors, ce qu'est une formation, pas idea, bildung, etc., mais enfin, disons, formation, serait à réinvestiguer. Cependant, rapporté à un individu qui, comme on dit, appartient à une génération, on dit même parfois appartient à sa génération, en effet, on ne voit pas comment il pourrait appartenir à une autre, cela donnerait une image scanner dans le genre cartésien par ceci, stoïcien par cela, pascalien en ceci, etc. Ou bien sur le modèle des anaphores d'André Breton disant de X qu'il est surréaliste dans telle page ou telle manifestation, ou de Y surréaliste dans tel acte ou de telle manière, je pourrais parcourir, et bien sûr je vais faire ces choses-là le plus vite possible, une telle formation. De platonicien par la question qu'est-ce que et l'orientation vers l'eidos, augustinien par le de musica et la question abyssale de l'intérieur intimo meo,
cartésien, par le doute, la position être-pensée, la séparation entre mes désirs et l'ordre du monde, le niveau d'indifférence de la liberté, etc., pascalien par l'hétérogénéité des ordres, le renversement du pour au contre sur l'échelle des pensées de derrière, et je pourrais continuer, bien sûr, kantien par le schème, la bonne volonté, le respect, le jugement, la question du sublime, ou bien nietzschéen par la pensée de la mort de Dieu, que sais-je, jusqu'à heideggerien, par la question de l'épocal, qu'on va sûrement retrouver, la détermination de l'étant, ou étantité, par la technique, le à quoi bon des poètes et de pas mal d'autres manières. Histoire de mes pensées, comme dit l'autre, ce qui veut dire de la lecture des pensées des autres, ou si vous préférez, sur un mode plus sarcastique, portrait de l'artiste en vieux singe, qu'il m'intéressera peut-être un jour d'archiver pour moi-même. Mais finalement, si on me posait la question « qu'est-ce que philosopher pour vous ?», je répondrais « l'exercice philosophique de la raison consiste à distinguer, discerner, c'est-à-dire devenir capable de concevoir des distinctions intellectuelles, des intelligibles, posées et tenues par la pensée comme essentielles en vue de l'institution de séparation réelle qui ménage l'existence de ces distinctions. Par exemple, la séparation des pouvoirs, ou celle du privé et du public, etc. Donc la croyance et l'espoir de l'intellectuel sont que des distinctions intelligibles, fondamentales parce que fondatrices, peuvent opérer dans le réel. Ces distinctions eidétiques que j'évoque rendent possibles donc les séparations réelles, c'est-à-dire l'instauration ou institution de choses dans l'existence sociale et politique. Elles commandent des objectivations qui matérialisent les différences à respecter, c'est-à-dire comme si elles étaient transcendantes, faute de quoi aucun ordre, par exemple aucun ordre civil, n'aurait de chance d'avoir lieu ou de tenir. Or, le travail du concept analytique et dialectique se développe et s'accomplit dans la langue. Et les distinctions terminologiques et syntaxiques, jeu de langage sans doute, comme va les appeler Vincent Descombes, se détermine logiquement, je prends ici logiquement dans le sens, disons, archaïque du logikos, sans que, c'est-à-dire en deçà de ce qu'on a appelé la logique formelle, puis la logique mathématique, sans que, donc, se détermine logiquement, sans que la notion chose vocable, ainsi isolée ou distinguée ou discernée, par exemple la justice, ou bien pourquoi pas la France, soit hypostasiée, absolutisée, idolâtrée, mais disons visée et maintenue dans le comme-si de sa réalité. Donc ces abstractions commandent un rendre possible un exister en commun. La langue, et je dirais ses langages vernaculaires, constituent le milieu ou élément commun, un même pour l'écrivain et le philosophe. Je continue sur mon philosopher. Philosopher, c'est privilégier les valeurs de médiation contre celles de l'immédiateté, du complexe contre le simple, et d'une certaine manière, de l'inéclaircissable, je reprends ce mot à une traduction de Kafka, contre le tiré au clair. Bien, je ne sais pas, c'est toujours difficile de risquer des formules corrigibles, correctives, de la disproportion contre l'adéquation. Ainsi, je ne crois pas que toute phrase soit paraphrasable, mais qu'il y a de l'insoluble au sens du non-soluble dans la grammaire, qui fait énigme. À la façon de tel aphorisme pré-socratique, j'en citerai un tout à l'heure en conclusion d'un hexagore, Et pour continuer donc ma formule privilégier valeur, je dirais privilégier les valeurs de l'élaboration contre celles de la spontanéité expressive, etc. Philosopher, c'est détester et soupçonner les stéréotypes, disons de la doxa pour faire mémoire de Roland Barthes, lutter contre le langage, dans le langage, sans en sortir. C'est, pour prendre un exemple, et peut-être aussi vieux qu'Aristote, exercer une vigilance destructrice, et pourquoi pas déconstructrice, contre les homonymies. Parce que, sous l'étrange permanence, c'est une chose très frappante, je crois, aujourd'hui, sous l'étrange permanence des mots, les choses, souvent, ont changé du tout au tout. Par exemple, l'image du XVIIe au XIXe siècle n'est pas le même que ce que nous, et depuis 50 ans en particulier, entendons par image. Et pourtant, le mot dans sa pérennité, son identité, dissimule un changement, une altération peut-être profonde. Ou bien, l'autre exemple, que démocratie de Platon Rousseau à la technocratie ou médiacratie du sondage ou des petites phrases qui fait que la chose a changé radicalement sous et dans son homonymie. Alors ici se profile, c'est mon souci évidemment même dans ces généralités de première partie d'engager des questions avec Vincent Descombes, ici se soucie de la question décisive pour Vincent Descombes de la radicalité, du changement d'époque, etc., et de la postmodernité que j'appelle volontiers pour mon compte la postmodernité culturelle. Philosopher, c'est entretenir un rapport au vrai pour lequel l'erreur est une et la vérité multiple. Non que les vérités ou des vérités, disons plutôt des vérités, se contrarient seulement, mais parce que les contrariétés en quoi le vrai se déploie, multiplie, lui sont endogènes. La vérité se contredit, est faite de manière à se contredire. L'impossible est fait pour être. Par où je commence peut-être aussi à suggérer qu'il y a quelque chose de, à mes yeux, trop court dans le telle page, par exemple la page 130, ou enfin trop court, encore une fois, par de coup, qui demandera de l'élongation. Dans la page 130 de ce volume, au beau titre, Philosophie par Grotan, comme lisons, pour toute proposition vraie, il doit y avoir une proposition fausse correspondante, sa négation. Peut-être que cette simultanéité paradoxale des contraires, de ce qui se contrarie, n'est pas une pensée, n'appartient pas à une logique du même type. Philosopher, c'est sur le fond de distinctions trop enveloppées pour ce soir, par exemple entre le soi, le moi, le je, etc., mais c'est refuser de confondre le point de vue de légitime défense de la particularité, toujours convaincu de son innocence et accusant le tort de l'autre, et confondre avec le point de vue élevé de la pensée que Platon appelle météorologique ou ruyère de survol ou le sens commun impartial, cherchant la justice par la justesse, en méfiant à l'égard des autismes et des idiosyncrasies, un sujet de l'énonciation soupçonne ses propres investissements pour gagner un point d'où de la généralité peut se faire par généralisation et de l'universalité par intérêt pour le commun des mortels. La philosophie est un mouvement de se retirer, abstraire, comme on dit, de quoi, de tout. En quoi, en pensée langue, pourquoi. Alors j'avais écrit ici, mais cette formule ne me plaît plus parce que ça va trop simplement de soi, pour apprendre à mourir. Mais, alors, et la littérature dans cette affaire? En quoi est-ce que l'écrivain et l'écrivain à poème se distinguent de cette vie théorétique que je viens de vaguement résumer? Peut-être ce que j'appelle poésie consiste dans le rapport philosophie et littérature. Peut-être poème désigne-t-il un exercice de pensée en transit, transaction, entre philosophie et littérature, une sorte d'expérience de traduction. Je lisais récemment un article, et pardonnez-moi, en écrivant ces notes cet après-midi, je ne me suis pas rappelé l'endroit. Je lisais récemment un article, mais c'est en même temps une banalité, dont l'auteur posait que Dostoïevski nous en apprenait autant que Kant sur le conflit moral, ou que Hegel sur la belle âme, ou que la lecture du procès de Kafka hyperbolisait le doute aussi bien, peut-être mieux, que Descartes, etc. Mais tout cela, ces formules, cela ne peut se dire que s'il y a les deux, s'il y a deux, leur échange, leur transaction, leur polarité, leur mêlée, mais que serait un écrivain, essayons de même d'imaginer, qui n'aurait aucun rapport avec ce qu'on appelle la philosophie. Mais alors, comment caractériser la littérature, brièvement ? Par l'identité du penser et du parler, en maternel, en vernaculaire, par l'amour du vernaculaire, c'est-à-dire l'équation, peut-être le mot n'est pas bon, entre parler et écrire, entre bien penser et bien écrire, c'est-à-dire, pas forcément au sens de la correction, je vais corriger ça, c'est-à-dire le caractère, disons, scriptible ou graphématique de la langue. Et plus encore, j'y reviendrai pour finir, plus encore par une entente du langagier, du langage qui ne porte pas seulement sur le syntaxique, le sémantique, archivé, etc., mais sur et dans, et ce mot est parfois brocardé par Vincent, dans la signifiance, un jeu que peut-être le jeu de langage grammatical n'épuise pas. Une certaine entente donc de la langue, pour laquelle ici j'ai repris ce mot de signifiance, qui n'est pas pratiquée par la grammaire philosophique. Aussi par une croyance en l'œuvre, c'est-à-dire une réflexion et une confiance qui portent sur la grande unité œuvre, avec ses structures propres, labyrinthique, abyssale, testamentaire, etc. Et en un rapport salutaire d'imitation du modèle, c'est-à-dire d'une œuvre modèle, par ma vie. Ce qui implique une exemplarité de la figuration donnant à penser, selon une formule fameuse, figuration donnant à penser, qui serait irréductible à d'autres méthodes, par exemple inductives. Une autre manière rapide toujours de dire les choses ici serait celle-ci. Souvent, pour ne pas dire constamment, le paradoxal, le rhétorique et le métaphorique sont affectés de valeurs péjoratives. Le paradoxe est à résoudre, à surmonter, le rhétorique à suspecter, à déjouer, à réduire, etc. Le purement métaphorique, comme on dit souvent, à dépasser, à traverser, à transcrire, etc. Alors je dirais volontiers que ces valeurs pour l'écrivain en littérature sont bonnes, c'est le moins qu'on puisse dire, ou constitutives, traversent et trament et membrures, je ne sais pas si le verbe existe, son élément, intransgressable enceinte ou clôture, comme celle du système solaire ou de la mortalité, sa finitude. Bon, comme ça commence à être un peu long, alors je vais mettre une page de côté et arriver dans la partie 2, c'est-à-dire quelques remarques, ça veut dire questions, objection que je me fais en lisant Vincent Descombes et sur des exemples. J'en ai cherché un qui fasse vite et bien, le mieux possible en tout cas, entendre la question que je vais poser. C'est dans les pages 100 de Philosophie par Grotan. Alors là, il s'y agit d'une certaine réduction du commentaire heideggerien, le commentaire heideggerien sur le principe leibnizien, le fameux principe de raison, principium reddende rationis. Alors la discussion se porte sur l'adjectif verbal, et je cite, Où croit-on trouver un doigt, D-O-I-T, un doigt, dans le texte de Leibniz? Tous les énoncés qu'il donne du principe parlent d'une raison qui peut être rendue. En effet, l'adjectif verbal latin marque l'action à accomplir et signifie souvent l'obligation ou la possibilité. L'obligation ou la tâche, mais on sait qu'il est également employé avec le sens faible de la simple possibilité. À ce moment-là, on a une note 8, et on va chercher en note, et on voit un passage bref qui cite le fameux couple Ernouméillet. Alors, Ernouméillet fait autorité contre, guillemets, le côté délibérément excessif de la traduction interprétative. Alors, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que on a un enjeu, une joute, une question très importante, décisive, c'est la valeur du principe redendé rationis. On est donc renvoyé à une discussion grammaticale. Et finalement, la note, assez subrepticement, mais enfin, elle est parfaitement bien lisible, la note nous renvoie à l'autorité des grammairiens. Alors, c'est donc la grammaire qui décide du sens, qui a le dernier mot, et je dirais le savoir positif de certains grammairiens, vu que Ernouméillet ont des successeurs et des prédécesseurs. Le savoir positif de certains grammairiens. Et alors, c'est ça qui, disons pour moi, est extraordinaire en définitive, avec ce type d'analyse philosophique qui porte sur les jeux de langage et qui énonce, par exemple, page 102, Heidegger n'a plus affaire, c'est donc le reproche qu'on lui fait là, Heidegger n'a plus affaire à une phrase de Leibniz qui propose une pensée. Bon, j'ai bien d'autres exemples. C'est donc, en fin de compte, la loi, les prophètes, l'instance de décision suprême de l'intelligibilité revient à la langue vernaculaire, maternelle, en tant que bienfaite. Confiance est faite et croyance en cette ratio, celle des catégories grammaticales qui apparaissent là, qui sont le substantif, l'adjectif, etc. Alors donc, ça c'est ma question, comme ça, la plus massive. Il y en a d'autres. Je parle pas, parce que ça c'est une question de ton, je ne parle pas de la rapidité avec laquelle parfois une pensée complexe, et Dieu sait si Vincent Descombes la tient pour complexe, la pensée de Heidegger, est attaquée par ses épigones, telle citation faible de Jean Beaufray, ou bien négligemment, par exemple page 116, si on laisse de côté comme parasitique ça, c'est ça en Heidegger, si on laisse de côté comme parasitique sa construction sur l'histoire de l'être. Mais alors, lisant une formule comme celle-ci, je me demande si, justement, on peut laisser comme parasitique sa construction sur l'histoire de l'être. Bon. Mais, bien d'autre côté, Jean-Pierre Salgas l'a suggéré, j'abonde, je veux pas du tout insister là-dessus, pas n'étant nullement un défenseur de l'orthodoxie heideggerienne. Néanmoins, c'est une question de ton. Par exemple, des petites phrases comme « Et à propos de Heidegger, il est permis de penser qu'il a choisi la mauvaise voie. Il est permis de penser qu'il a choisi la mauvaise voie. Il y a un côté rapide, évidemment. Ça n'est qu'un aspect, et c'est surtout cette affaire de grammaire comme traditionnelle, comme décision sur le sens, qui me paraît importante et intéressante. Alors évidemment, c'est contre cela, d'une certaine façon, que mon objection, ma question la plus tenace, tient à ceci, c'est-à-dire cette auscultation grammaticale, n'entend pas le jeu de mots poétiques, le jeu du signifiant, c'est-à-dire n'ausculte pas ce jeu qui est celui de l'entente poétique. Le terme signifiant ou signifiance, je veux bien essayer de m'en passer. On peut parler de résonance, ou bien de contenance, pourquoi pas, contenance, mot intéressant dans la mesure où il est en deçà, avant la différence forme-contenu. Et puis, ne tient pas compte du jeu aussi de tout ce qui s'invente par la faute, par la transgression, par la généralisation de l'exception, par, d'une certaine manière, non pas le n'importe quoi, mais le la lutte au fond de l'écriture, à certains égards, dans et contre la grammaire. Hein. On pourrait dire, si vous voulez, en pensant à un texte fameux de Hölderlin sur le centaure, toute cette fable du centaure, c'est le frayage de la langue dans une espèce de fable qui serait la fable d'un frayage de l'origine, bien entendu. L'origine renvoyant un frayage de l'origine, et celle-ci étant dite pour fable, c'est-à-dire tout ce mouvement de transgression, de généralisation. Bon, il y a d'autres questions, là, j'en ai noté une, je ne sais pas si on s'en servira tout à l'heure, mais c'est des déclarations importantes pour le rapport philosophie-littérature. Page 124 du même livre, il y a une thèse sur la culture. Bon, c'est toujours dans le rapport, le vrai combat avec la pensée de Heidegger. Le philosophisme fait comme si la culture était dans la métaphysique occidentale. Il est plus juste de renverser cela. Les métaphysiques occidentales ont pris naissance dans la culture. Alors, on renvoie donc à une instance de la culture qui, bien, même si Vincent Descombes en a parlé à bien des égards dans d'autres livres, qui reste au fond problématique. Bon, alors j'en viens au rapport à Proust.
Je m'excuse, Michel Lyon, on peut peut-être...
C'est trop long.
Oui, enfin je dis ça, on peut peut-être laisser Descombes...
Bon d'accord, alors
si vous en êtes d'accord.
Il parle et puis ensuite je parle éventuellement de ces choses sur Proust.
Je préférerais, enfin, et je demanderais par ailleurs à Vincent Descombes peut-être de ne pas répondre, enfin, de ne pas... faire une controverse sur Heidegger, enfin précisément, non mais, enfin je vais ou plutôt de profiter de cette contestation sur Heidegger, peut-être pour expliquer finalement aussi quelle est sa position, lui, enfin pourquoi au fond lui se situant dans cette tradition que je rappelais anglo-saxonne de la philosophie, s'est tant que cela intéressé à la littérature et en particulier dans le Proust jusqu'à élaborer l'idée que vous définissez d'une philosophie du roman, alors que en général les philosophes anglo-saxons c'est pas leur tasse de thé la littérature. Donc enfin, j'aimerais bien que vous, enfin voilà, que vous nous disiez un peu, que vous expliquiez ce qui fait votre singularité dans la philosophie sur ce point, tout en répondant bien sûr à Michel Legui.
Oui, mais
oui, non, c'est bon. C'est
la partie qui concerne la littérature de Proust, ne vaut-il pas mieux attendre alors le est-ce que je parle de Heidegger ou est-ce que je fais moi aussi
Vincent, tu fais comme tu veux quand même.
Voilà, vous faites comme vous voulez.
Ah oui, mais là, il y a un organisateur qui...
Non, mais alors, vous... Voilà, Proust, ça sera pour après.
Bon, d'accord.
C'est le prochain chapitre.
Donc, je ne... Bon,
alors, c'est moi qui ai introduit la confusion. Vous laissez Proust, si vous pensez en venir à Proust, c'est aller au-delà de...
Non, non,
de la simple opposition.
Je peux y faire, mais alors, peut-être dis-je ce qui me vient à l'esprit sur les derniers points portant là sur la philosophie, et puis après on remet ça avec...
Je voulais juste dire que probablement les objections de Michel Legui sur Proust portent sur des interprétations précises de Proust, peut-être plus que sur le projet lui-même de philosophie du roman, qui après tout pourrait avoir trouvé son effectuation, par exemple sur Balzac que vous citez dans tous vos textes. Donc c'est en ce sens-là, moi je voulais vous interroger sur le projet, plus que sur tel ou tel point de votre interprétation de Proust. Hein, c'était plus sur ce qui est l'introduction du livre ou le chapitre 4 où vous expliquez au fond en quoi Proust romancier va contre Proust philosophe. C'était mais
bon donc je dis un peu mes réactions là aux questions qui sont posées, puis après on voit
absolument
ce qui se passe. Non, je regarde par où partir commodément. Il me semble que il y a peut-être une difficulté qui est introduite par moi en particulier, ou par les philosophes dont je m'inspire, et qui tourne manifestement autour de cette notion de grammaire qui paraît assez rébarbative, il faut bien le dire, à Michel Legui.
Je rappelle juste que vous avez écrit un livre qui s'appelle Grammaire d'objets en tout genre, que vous vous réclamez d'une grammaire philosophique au sens de Wittgenstein, et à entendre de Guy, vous seriez un simple zélateur d'Ernoux Meillet, effectivement.
Donc, oui, alors le problème.
Attendez, c'est pas rébarbatif, non, c'est pas ça la question, et c'est pas non plus simple zélateur, c'est une stratégie qui.
Oui, j'entends bien, oui. Alors, il y a une. Certainement que ce n'est pas mon invention d'utiliser le mot grammaire pour une activité philosophique, et donc je rappelle seulement qu'il y a une longue tradition dont je ne sais pas si je peux m'autoriser, mais enfin qui me sert en tout cas pour me protéger. Et à cette tradition appartient Heidegger lui-même, qui a consacré, comme tout le monde sait, cette thèse à la grammaire spéculative d'un auteur scotiste. Donc, c'est un projet qui a sa consistance. Et alors, la confusion qui se produit vient de ce que cette grammaire, en réalité, ne coïncide pas du tout avec, justement, la grammaire latine, par exemple, ou la grammaire de la langue française, ou enfin n'importe quel projet linguistique. Et pour dire juste un mot de la grammaire d'Ernoux, c'est justement en tant que, hélas, mes compétences en grammaire latine sont très insuffisantes, que j'ai cru devoir me référer à un ouvrage sur la question pour confirmer ce que me semblait montrer une lecture alors philosophique de Leibniz, à savoir que dans le texte de Leibniz, je ne vois nulle part une sorte d'impératif ou d'appel que Leibniz, dont Leibniz se ferait le porte-parole, ou d'obligation dont il se dirait le sujet, à donner partout des raisons, puisque, me semble-t-il, Leibniz dit au contraire que ces raisons nous échappent de toute façon, n'est-ce pas ? Donc il ne nous lance pas dans une tâche de chercher les raisons. Donc, c'est pour confirmer, si je puis dire, ma lecture philosophique d'un philosophe contre une objection qui pourrait venir à la semaine prochaine, mais dire, mais, et serait d'un doum, là, qu'est-ce que vous en faites, que je peux protéger en disant, mais, bien entendu, moi, je ne suis pas une autorité sur le latin, mais voici un ouvrage respecté qui, non pas par l'autorité du maître, mais par tous les exemples dont je rappelle certains, n'est-ce pas, dans la note, de Cicéron et autres, montre que l'adjectif verbal n'a pas un sens unique qui serait celui de l'obligation, mais doit être interprété, ce qui me permet donc d'opposer interprétation ou lecture philosophique à lecture philosophique. Alors, ça n'est qu'un exemple, mais si vous voulez, j'aimerais introduire une différence entre la grammaire philosophique telle que je la comprends, qui ressemble, qui ne coïncide pas, mais qui ressemble un peu quand même à ce que Michel de Guy a énoncé comme étant l'exercice de la philosophie dans son esprit. Donc distinguer ça de la grammaire et même de la philosophie de la grammaire, au sens où il y a des ouvrages portant sur qui réfléchissent sur ce qu'on peut apprendre en considérant, je ne sais pas, l'expression du temps en grec et en latin, je pense à, par exemple à l'ouvrage de Jespersen qui porte ce titre, Philosophie des grammaires. C'est-à-dire que la grammaire des grammairiens